Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Et si quelque chose avait changé en matière de sieste, aux yeux du grand public comme d'ailleurs du corps médical? Cette pause, indispensable aux jeunes enfants, ce temps de repos en pleine journée a longtemps été perçu comme une manifestation d'oisiveté, une habitude associée à une forme de nonchalance, certains allant jusqu'à confondre sieste et paresse. Mais à mesure que sont conduites des études scientifiques à son sujet, la liste de ses bienfaits pour la santé s'allonge et l'on apprend à mieux connaître ce temps de repos dont la perception varie considérablement en fonction des latitudes. Stress, immunité, santé cardiaque, hypertension, lutte contre la somnolence. L'action de cette pause serait donc salutaire à divers degrés pour l'organisme, mais il y a sieste et sieste. Des indications différentes en fonction de l'activité, notamment en termes de durée, sieste recommandée par certains médecins, mais aussi, nous le verrons, dans le cadre d'entraînement sportif et encore dans la vie en entreprise pour retrouver motivation ou concentration. Tout savoir sur les bienfaits de la sieste. En studio avec nous, Brice Farreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neurosciences au sein de l'équipe Vigilance, Fatigue, Sommeil, Santé publique à l'Université Paris-Descartes et au Centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu de la PHP. Et vous avez signé, Brice Farreau, Sauvé par la sieste, petit somme et grande victoire sur la dette de sommeil. C'est publié chez Actes Sud dans la collection Questions de santé. Également avec nous en studio, docteur François Duforest, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin du sport et du sommeil, praticien attaché au Centre européen d'épidémiologie des troubles du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel Dieu de Paris. Et vous dirigez également l'European Sleep Center, organisme chargé de la prise en charge des troubles du sommeil. Et tout à l'heure, nous serons en ligne avec la République démocratique du Congo, avec le docteur Papi Mafuta Kisadi, médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kitambo à Kinshasa. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Alors quand on parle de la sieste, Brice Farreau, bien sûr, on s'intéresse à la qualité du sommeil. Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, on a l'habitude de dire l'alimentation, c'est la première médecine. Mais non, vous dites le sommeil, hein, c'est la première médecine. Alors comment décrire ce qui différencie, par exemple, une sieste d'une bonne nuit par rapport au sommeil humain avec ces fameux cycles?
Ah oui, alors la sieste, évidemment, j'appelle ça, c'est une mini-nuit quelque part. Hein. Alors selon la longueur de la sieste, on va retrouver les différents stades de sommeil qu'on peut retrouver au cours de nuit. Alors la sieste qu'on appelle sieste longue, sieste d'un cycle, dans cette sieste, vous aurez tous les stades de sommeil. Mais ça, c'est un cas particulier dont on évoquera plus tard l'utilité. Mais dans une courte sieste, en général, on a du sommeil lent léger et un peu de sommeil lent profond. Donc ça permet d'avoir certains bénéfices à petite échelle qu'une nuit entière va nous fournir. Évidemment, la nuit entière est la plus récupératrice.
Mais la sieste, en tout cas, Brice Farreau, elle n'est pas recommandée uniquement qu'aux seules personnes qui souffrent d'insomnie.
Non, pas du tout. J'aimerais prendre l'insomnie, pourquoi pas, mais avant tout, la dette de sommeil. Par exemple, nous venons de publier, j'étais co-auteur d'une étude avec Santé publique France, elle a fait pas mal de bruit, où je voudrais insister là-dessus. C'était une manière un peu de sonner un petit signal d'alarme, puisque dans cette étude, qui était représentative de l'ensemble de la population française de 18 à 75 ans, qui a été faite auprès de plus de 12 000 personnes, la dette de sommeil sévère, donc c'est-à-dire le fait de dormir 90 minutes de moins chaque nuit qui nous est nécessaire pour fonctionner correctement au point de vue physiologique et au point de vue cérébral, elle atteignait 25% des Français, ce qui est quand même important, parce que si tous les jours les gens, ces 25%, dorment une heure et demie de moins, à la fin de la semaine ils ont perdu une nuit, à la fin de l'année ils ont perdu plus d'un mois de sommeil. Et justement dans cette étude, l'originalité, hein, si je ne vais pas m'étendre trop, mais c'était de regarder le sommeil sur 24 24 heures, d'avoir une photographie du sommeil sur 24 heures. Ça permettait de voir est-ce que les gens vont dormir, vont utiliser des siestes de récupération. J'utilise à propos le mot récupération parce qu'on est dans une situation de dette de sommeil. Donc avant tout, le propos du livre, c'est de proposer une solution, ce qu'on appelle le sommeil biphasique, face à cette souffrance qu'est le manque de sommeil et qui est très très présente, en particulier pendant la semaine. Donc pour revenir à cette étude, seul un quart des Français utilise cette sieste de récupération. Donc c'est encore trop peu. Aux États-Unis, au Japon, on est dans des chiffres plus élevés.
Ce que vous nous expliquez, c'est pas parce que les gens n'arrivent pas à dormir, mais c'est parce qu'ils ne dorment pas suffisamment.
Le sommeil est souvent vu comme une variable d'ajustement, en fait. L'hyperconnexion, les rythmes de transport, hein, en moyenne 1h20 le trajet transport domicile travail. On devrait réintégrer, comme vous l'avez dit en début d'émission, le sommeil comme nos repas, comme notre travail. Quelque chose, et le sommeil de sieste, c'est quelque chose d'essentiel, c'est notre première médecine.
Alors, docteur François Dufaurès, comment se fait-il qu'on perde l'habitude de faire la sieste avec les années? On le sait, hein, les bébés, ça dort beaucoup. Au début, c'est ce sommeil fractionné tout au long de la journée. Puis après, il va y avoir des siestes. C'est même institutionnalisé encore à l'école maternelle pour les premières années de scolarité. Pourquoi on s'arrête après?
En France. Oui, parce qu'il y a un côté culturel dans la sieste. Quand vous allez dans d'autres pays, que ce soit en Asie ou en Espagne, si on parle de l'Europe, eh bien, il y a des habitudes qui sont un petit peu différentes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le mode de travail s'est transformé. Et on a perdu l'habitude de la faire à la sieste parce que il y a une centaine d'années, on était dans des travaux où la partie physique était importante. Et travailler physiquement quand il fait chaud, aux alentours de 14 heures, classiquement, les paysans faisaient la sieste plus facilement, je dirais naturellement. Or maintenant, on est dans une problématique où on a parlé beaucoup d'hyperconnexion, de technologie, et la dette de sommeil dont Brice vous a parlé, elle touche essentiellement les gens actifs, les gens qui travaillent. On sait que les gens âgés, qui ont plus de temps, font plus la sieste que les gens actifs. Et cette problématique, elle fait que la fatigue mentale qui est associée à ces technologies, on a perdu du sommeil et on n'a pas encore appris, notamment en France, la capacité ou les outils qu'on pourrait apprendre justement pendant l'enfance qui nous permettent de payer cette dette de sommeil à des moments privilégiés.
Alors c'est justement l'objet des consultations dans ces services spécialisés pour le sommeil. Comment est-ce qu'on évalue justement le profil des dormeurs et la nature du sommeil et ses troubles, docteur Dufaurès?
Alors là, vous nous parlez de ce qu'on fait essentiellement donc à l'Hôtel Dieu, dans des centres où on va voir, nous, des gens qui ont des troubles du sommeil relativement anciens. Les gens qui viennent nous voir ont déjà essayé plein de choses et puis ça marche pas. Donc, essentiellement, si on résume, il y a trois types d'évaluations. La première évaluation que font souvent les gens, c'est un agenda du sommeil. C'est qu'on va demander comment les gens dorment et comment ils se comportent dans une semaine complète, c'est-à-dire comprenant la semaine et le week-end. Classiquement, les gens qui travaillent notamment dorment pas très bien de la nuit de dimanche à lundi, et puis dorment un peu mieux de la nuit de vendredi à samedi, parce qu'ils ont un peu le temps de récupérer. Donc, c'est la manière la plus simple, subjectivement, de décrire un trouble du sommeil. La deuxième chose, c'est qu'on a des outils maintenant connectés qui font que de plus en plus de gens viennent en nous demandant « qu'est-ce que vous pensez de la montre que je porte ?» Ça nous donne des informations plus ou moins juste, en train d'être validé et qui commence justement à être de plus en plus précise. Et nous, on peut rajouter des outils dont on dispose, qui nous permettent de voir comment fonctionne l'horloge biologique, mais d'une manière objective. Enfin, le troisième point, c'est des enregistrements électroencéphalographiques que l'on fait dans les laboratoires, le plus souvent en ambulatoire, pour voir s'il n'y a pas des troubles associés qui sont des troubles respiratoires, tensionnels et ainsi de suite. Et puis, parfois, on hospitalise les gens sur des durées un peu plus longues pour voir comment et qu'est-ce qui se passe dans ces troubles du sommeil qui sont généralement chroniques et anciens.
Alors, on va revenir au cœur de notre sujet, les bienfaits de la sieste. Toute une liste qu'on retrouve dans votre ouvrage, Brice Farreau. Vous pouvez d'ailleurs réagir tous les deux si vous le souhaitez. Alors, j'ai justement fait ma petite liste de courses. Pourquoi c'est bon de faire la sieste? Alors, tout simplement, évidence, augmentation de la vigilance, c'est pointé particulièrement pour réduire le nombre d'accidents de la circulation, Brice Farreau.
Oui, alors le titre du livre, hein, Sauvé par la sieste, on peut avoir plusieurs grilles d'analyse sur ce titre. Alors la première, oui, c'est, je vous rappelle, somnolence, première cause de mortalité sur autoroute. Hein, les gendarmes constatent une absence de freinage, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, une sieste courte d'une dizaine de minutes permet de récupérer de la vigilance et d'éviter un accident. Hein, j'illustre d'une expérience, même dans des des situations un peu extrêmes. Nous avons des collègues à Bordeaux qui ont lancé des voitures à 130 km/h sur autoroute, hein, en conditions réelles. Ils ferment l'autoroute la nuit, hein, vers 1h du matin. La personne conduit 200 km et on voit que lorsqu'elle a dormi une demi-heure, elle franchit. Il y a des franchissements inappropriés de ligne. C'est comme ça, on regarde si la conduite est correcte, combien de fois on franchit la ligne, la ligne blanche au milieu. Et ben, on voit que ça diminue de 4 fois le nombre de franchissements de ligne. Donc, évidemment, première chose, c'est la somnolence. Donc ça, on connaissait ça depuis longtemps pour les professions à risque, les pilotes, etc. Maintenant, donc c'était un opinel. Moi, j'ai appelé ça un couteau suisse parce qu'il y a de plus en plus de fonctions. Hein. La puissance de la sieste, hein, de récupératrice, a été révélée par des fonctions mises récemment en évidence par de nombreuses études scientifiques. Donc, on peut parler maintenant d'aller un peu plus loin sur la mémoire. Je pense un petit point sur la mémoire, c'est très important. Vous parliez des enfants tout à l'heure. Hein. Le sommeil, c'est le moment critique pour consolider un apprentissage. 2-3 exemples très rapides sur la sieste. Dès 6 minutes de sieste, j'ai appris une liste de mots. Je vais être capable de la restituer de manière plus efficace. Deuxième chose, pour toujours s'adresser aux étudiants, j'apprends des notions assez rébarbatives comme de la zoologie. Je les apprends, je bachote. Pendant une heure, je fais une sieste. Ou un autre groupe pendant une heure ne fait rien et un troisième groupe continue à bachoter, bah figurez-vous que une semaine après, ces seuls ceux qui auront fait la sieste auront consolidé ces apprentissages. Donc pendant le sommeil, on consolide ces apprentissages et, très important, on élimine des informations parasites non indispensables pour un peu faire le ménage entre guillemets dans le cerveau.
Action d'élimination, se régénérer aussi, on le voit à plusieurs titres. Alors la liste est longue, hein, ça agit sur le stress, vous l'avez dit, concentration mémoire, sensibilité à la douleur, tension artérielle, santé cardiaque, éviter le surpoids et le diabète, et puis le système immunitaire. Comment ça marche ?
Alors, le système immunitaire. Alors, première chose, on a tous remarqué, lorsqu'on est en dette de sommeil, donc lorsqu'on dort pas assez jour après jour, on a tendance à, pour parler de manière un peu simple, attraper un peu tout ce qui se passe, hein, un rhume, tout simplement. Mais ça, des collègues de l'Université de Pennsylvanie l'ont démontré de manière assez solide. Ils administraient un rhinovirus, donc le rhume par voie nasale, et regardaient chez des gens qui avaient plus dormi, moins dormi avant, et les gens qui avaient moins dormi, non seulement contractaient plus de rhume, et mettaient plus de temps à récupérer. Pareil, un vaccin, après je vais en venir pour les effets de la sieste, après un vaccin, tout simplement, je vaccine quelqu'un, je vaccine deux personnes, une je la fais dormir normalement la nuit, l'autre je l'empêche de dormir la nuit qui suit, et ben on verra lorsqu'on fera le rappel, par exemple contre l'hépatite A ou l'hépatite B, donc le rappel, je vous rappelle, on réinjecte un petit partie de l'antigène pour voir si les anticorps réagissent rapidement, lorsqu'on titre ces anticorps, lorsqu'on mesure la quantité d'anticorps, j'aurai deux fois moins d'anticorps chez la personne qui n'aura pas dormi et qui n'aura pas eu de sommeil lent profond, essentiel pour consolider cette fois la mémoire immunitaire.
Ça veut dire que quand on reçoit un traitement, c'est très conseillé de bien se reposer juste après.
Absolument, ça paraît de bon sens, mais absolument.
Mais tout le monde ne le fait pas forcément. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent ? Question que j'adresse à tous les deux avant qu'on entende un petit reportage en matière de sieste. Est-ce que la sieste est réhabilitée ? Est-ce que c'est un petit peu moins honteux ? Je parle bien sûr dans nos contrées, dans notre culture, hein, puisque ailleurs c'est tout à fait normal et légitime de faire la sieste. De faire la sieste, je me tourne vers vous, docteur Dufaurez.
Oui. Il y a des exemples très concrets, un petit peu médiatisés, qui font que maintenant, en termes de productivité, dans le monde du travail notamment, les gens se sont...
On va y revenir à travers notre reportage, voilà. Justement.
Mais dans le monde sportif, on s'est aperçu, par exemple, que il y a notamment en France des gens extrêmement performants autour des océans, et de voir ces navigateurs solitaires qui, justement, par des sommeils très particuliers, qui sont basés sur des siestes répétitives, arrivent à faire des performances à la fois cognitives dans un milieu à risque, extrêmement important. C'est extrêmement décrit. Par exemple, nous, on s'occupe de navigateurs. À chaque fois qu'il y a une course type Vendée Globe, les gens nous demandent, les journalistes ou le grand public nous disent, mais comment ils font ? Comment ils font ? Ben oui, on a commencé à enregistrer, on a vu qu'ils faisaient grâce à certaines formes de sieste. Donc tout ça, ça a médiatisé le fait que c'était efficace pour des gens qui paraissent...
C'est du sérieux.
C'est du sérieux, c'est du solide et c'est performant.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Brice Farrow?
Oui, vous parliez de c'est une question de culture, hein, parce que les anglo-saxons, ils appellent ça la power nap, il y a une notion de puissance, ils ont bien compris l'intérêt, c'est d'être gagnant-gagnant, y compris dans les entreprises ou ailleurs. Les japonais, un petit mot sur les japonais, qui font la sieste, ils appellent ça des petites siestes, ils sont là, et être là tout en dormant, donc même en réunion, et c'est totalement intégré dans leur système de professionnel, etc. Donc c'est vraiment une question de culture, et en France, je dois dire quand même, ça commence à venir, on en reparlera en entreprise.
Ça commence à bouger tout de suite, justement, avec cette illustration. Alors, la sieste qui s'invite sur le lieu de travail, deux jeunes chefs d'entreprise ont créé des installations, des cocons pour permettre aux salariés de s'offrir une pause, une micro-sieste, un temps de détente au bureau. Raphaël Constant a rencontré Camille Desclé, elle est cofondatrice de la start-up Nat and Up, c'est en anglais, à Paris, sur le site du constructeur Renault, qui est dédié à l'innovation.
Alors Nap & Up, c'est une start-up qui s'est donnée pour mission de démocratiser la pratique de la micro-sieste en entreprise. Quand on parle de micro-sieste, l'idée c'est de proposer une petite pause de 10 à 20 minutes pour permettre aux salariés de recharger leur batterie sur leur journée de travail. Proposer un espace où les gens peuvent se sentir en sécurité, déconnecter, s'isoler 5 minutes et permettre d'être mieux le reste de la journée. Donc ici, au Square de Renault, on a eu la chance de disposer d'une salle de réunion à réhabiliter, qu'on a réhabilitée en une quiet zone. Il y a plusieurs espaces qui sont proposés dans cette quiet zone.
On peut aller voir ?
On peut aller voir.
Alors, on rentre dans cette petite salle calfeutrée.
Alors, donc là, on est dans le premier espace qui est équipé de canapés, de fauteuils, d'une bibliothèque où les gens peuvent se poser au calme. Cet espace est suivi ensuite d'un second espace qui contient trois cocons. Donc les trois cocons sont occupés, donc c'est pour ça qu'on parle à voix basse. À l'intérieur, les gens sont sur un fauteuil en position semi-allongée et ils sont équipés d'un casque audio avec des audios de sophrologie qui les aident à déconnecter et qui les réveillent à la fin du programme.
Installez-vous confortablement. Jambes et bras décroisés. Installez-vous tranquillement à la fois dans l'espace et dans le temps. Et quelle que soit votre position, prenez tout le temps nécessaire pour l'ajuster afin qu'elle soit le plus confortable possible.
Hugo, vous venez de sortir d'un cocon de sieste. Racontez-moi.
Mais déjà, je me sens hyper bien. Moi, c'est presque une habitude maintenant. En tant que fondateur de start-up, je me lève assez tôt le matin et j'ai toujours un coup de barre après le déjeuner.
Et qu'est-ce que vous ressentez comme bienfait sur votre santé ?
Je suis tout de suite beaucoup plus dynamique. J'avais systématiquement le nez qui tombait sur le bureau après le déjeuner, je luttais. J'ai essayé de me dégourdir, mais en fait ça persiste. Là c'est immédiat, quoi. Juste après, je peux bosser et jusque tard, parce que souvent on bosse tard. Le bienfait de la sieste, mais je l'ai tout de suite vu. Je le faisais pas du tout avant. J'ai mis un peu de temps avant de me lancer. Et une fois qu'on a essayé, on a du mal à ne plus le faire.
Alors je m'appelle Elias et je suis entrepreneur ici au Square.
Elias, est-ce que vous faites souvent la sieste ?
Assez régulièrement, ouais, je dirais 2 ou 3 fois par semaine.
Et vous faites ça parce que ici dans cette entreprise, vous avez l'opportunité de le faire ? Ou parce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement vous, chez vous ?
Non, c'est quelque chose que je fais de toute façon. Après, c'est quand même plus confortable de le faire ici avec un espace dédié. Après, je suis plus concentré. J'ai pas de période de latence dans laquelle il faut que je me remette dedans. Puis il n'y a pas cette sensation de fatigue et derrière de pouvoir être un peu plus à cran. Ou, je suis plus apaisé forcément, étant donné que je suis moins fatigué. C'est pas être feignant que d'aller dormir. Bien au contraire, c'est un gage de productivité. Également de stabilité émotionnelle dans l'équipe. On est plus attentif quand on conduit un scooter, on est plus attentif en réunion, on a moins de fringales, enfin tout un tas de petits trucs qui fait que quand on est reposé, c'est meilleur globalement pour l'organisme. J'ai des amis qui font ça dans les toilettes, c'est pas très confortable, mais le fait est qu'ils se sentent mieux comme ça.
Je vois qu'il y a encore un ou deux cocons utilisés, donc on va laisser les salariés finir leur sieste.
Raphaël Constant, docteur François Dufaurez. Mmh. Est-ce que Gaston Lagaffe, ce héros de BD qui passait son temps à faire la sieste au bureau, est-ce qu'il était visionnaire, Gaston Lagaffe ?
Oh, certainement. Il était en anticipation. Et d'ailleurs, pour avoir fait X bandes dessinées pour qu'elles soient achetées à grande quantité, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose d'important à lire pour les gens. Derrière, il y a une notion d'efficacité et derrière une notion très relative. C'est pas simplement que le temps, c'est aussi la manière de le faire, hein, parce que derrière il y a toutes ces notions d'outils, il y a des gens.
Ça a été travaillé.
Ça a été travaillé, et je voudrais dire que moi je viens de, j'étais formé à l'Institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées. Dans les années 90, ça commençait à exister déjà en formation pour les gens qui allaient sur le terrain et qui allaient être en dette de sommeil, en anticipation, on apprenait les gens à faire ces siestes récupératrices. Brice parlait de power nap, et c'est vrai que quand dans le monde de l'entreprise française, dans les années 2000, vous parlez de sieste, on vous écoutait moins. Quand on parlait de power nap, on vous écoutait. Alors que ça veut dire systématiquement la même chose. Donc il y a vraiment ces notions de présentation qui sont aussi très importantes. Et dernier point, ce qui est intéressant dans vos reportages, c'est que ce sont des jeunes.
Mmh. Et, c'est sur ce changement justement de mentalité.
Exactement, changement de mentalité et changement de travail avec une présence cérébrale très forte devant les écrans, avec une pression, une fatigue mentale. Et ça lié aussi, je voudrais insister moi en tant que médecin du sport, à cette corrélation avec la sédentarité qui augmente. L'activité physique est aussi un régulateur du sommeil.
Brice Farot, une petite réaction avant de retrouver les auditeurs.
Alors, petite réaction au reportage. Le dernier auditeur l'a très bien, enfin, dans le reportage, la dernière personne l'a très bien indiqué. La sieste, ça s'apprend. Parce qu'il disait qu'avant, il ne la pratiquait pas. Et depuis qu'il l'a fait, ça va mieux. Il arrive de mieux en mieux. En effet, ça s'apprend. Et ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on la pratique, au début, on a du mal, on n'arrive pas à s'endormir. Mais peu importe, il faut persévérer. Parce que figurez-vous que votre horloge biologique a une certaine plasticité. Et si on est très régulier, elle va en retour vous récompenser et vous aider. C'est-à-dire, en début d'après-midi, ce petit creux de température, ce creux de vigilance, cette baisse du cortisol, on peut l'accentuer en étant très régulier et en apprenant à faire la sieste. Et deuxième chose, vous parlez de Gaston Lagaffe, là je pense qu'on est plus dans la créativité, parce que figurez-vous que le sommeil c'est la créativité, hein. C'est le moment où se fait ce qu'on appelle des hyper-associations mnésiques, peu importe, on mélange des moments, des choses qu'on cherche à résoudre avec des images du passé, des pensées du passé, et tout ça arrive à quelque chose, on crée une solution qui n'existait pas, qu'on peut pas avoir de manière consciente. Et ben cette créativité, elle a été montrée en particulier liée au sommeil paradoxal pendant la sieste. Et Gaston Lagaffe, il y a une étude intéressante qui a été faite il y a 40 ans, publiée dans Science, où il regardait quels sont ces siesteurs par goût, par plaisir, et on remarquait qu'ils avaient beaucoup d'éveil pendant leur sieste. Donc ils cherchaient, vous savez, cet état frontière entre la veille et
entre
le sommeil.
Entre deux, on est si bien.
Voilà, absolument.
On a l'impression un peu de planer, on va dire.
Voilà, et c'est là qu'on a des images comme ça, et pour les créatifs, ils utilisent ça souvent lorsqu'ils sont en panne d'inspiration.
En tout cas, ce que vous disiez tout à l'heure rappelle exactement cette question de Youssouf qui est à Dakar au Sénégal, question Facebook. Je n'arrive pas à faire la sieste, pourtant je suis fatiguée, je dors mal la nuit, comment réussir à faire la sieste? Donc vous lui dites persévérer.
Bah persévérer, il faut savoir que moins on dort, plus on est stressé. Et évidemment, le stress est l'ennemi de l'endormissement. Une petite expérience marrante à ce sujet-là, en rapport avec la sieste. On fait un stress psychosocial, je mets quelqu'un dans une pièce, je vais faire des exercices d'algèbre sur ordinateur, je rentre toutes les deux minutes dans la sieste. Vous n'y arrivez pas, tout le monde y arrive, c'est pas normal, vous mettez l'expérience à l'eau, la personne commence à stresser. Et elle met deux fois plus de temps à s'endormir pendant une sommeil de sieste que quelqu'un qui n'aurait pas été stressé.
On prend tout de suite les auditeurs en ligne.
Tu sais, papa, je n'ai vraiment pas sommeil.
Si tu veux jouer avec Lily, il faut d'abord te reposer.
Priorité santé sur RFI.
Et je ne veux pas entendre de bruit.
Moi, je veux vous entendre, Nassi. Vous êtes à Bénin, au Bénin, à Parakou. J'espère que on vient pas de vous réveiller. Comment ça va? Bonjour.
Bonjour, Calorie.
Ça va bien?
Ça va très bien chez vous.
Alors, racontez-nous comment vous dormez, comment vous faites la sieste.
Bon, je me souviens quand j'étais petit, je n'aimais pas vraiment faire la sieste. Je ne sentais vraiment pas le besoin de le faire. Les parents couraient même pour m'attirer pour que je fasse la sieste, mais moi, ça ne me disait rien. Mais actuellement, depuis que j'ai augmenté d'âge, je sens vraiment le besoin de le faire. Et après le cours de la matinée, je fais la sieste de 15 à 30 minutes comme ça. Et je me sens vraiment bien.
Vous êtes étudiant, Nassif, alors vous rentrez chez vous pour dormir ou vous trouvez un petit coin pour faire ce petit somme?
Non, je rentre chez moi. Je ne suis pas loin de l'université. Je rentre chez moi 15 à 10 minutes, à 20 minutes comme ça, voire 30. Mais lorsque j'arrive pas à le faire, j'ai vraiment les maux de tête.
C'est devenu une habitude. Est-ce que justement, docteur François Duforest, quelqu'un qui s'habitue à faire la sieste régulièrement tous les jours, quand il passe ce cap, eh bien, ça peut être préjudiciable pour lui ? Pas forcément ?
Pas forcément. Je vais vraiment dans le sens de Brice, c'est que plus on pratique cette sieste, plus on l'apprécie. Donc, il y a une notion de plaisir. Comme on dit en anglais, pleasure a day keeps the stress away. Un plaisir par jour éloigne le stress. Et donc, si ça devient un plaisir, c'est une chose. Deuxième point, il y a des gens qui arrivent, qui nous disent, on comprend bien que la sieste est efficace, mais j'arrive pas à la faire parce que j'arrive pas à m'endormir. C'est pas le problème. Hein. On n'est pas obligé de s'endormir dans le sens profond pour avoir une sieste qui soit réellement récupératrice.
C'est dans le sens de la détente.
C'est dans le sens de la détente. Il se passera ce qui se passera. Le cerveau, il est intelligent. Si vous utilisez certaines techniques, ça va le faire. Et ça devient intéressant. La problématique, c'est quand la sieste devient trop longue. Et je pense notamment à tous les gens qui travaillent en horaire décalé, qui, lorsqu'ils sont en horaire décalé, et je prends un exemple tout bête, mais un exemple d'un sportif qui va jouer à 21h au football, avec une émotion importante, et ainsi de suite, qu'on soit professionnel ou pas d'ailleurs, eh bien il va avoir des gros problèmes de dette de sommeil la nuit d'après, puisque s'il fait des siestes qui sont trop longues, il va se trouver décalé tout au long de la semaine. Donc je pense que là, Brice peut vraiment nous donner des choses sur... ces siestes trop longues, comment les placer et pourquoi les faire et pourquoi ne pas les faire surtout.
On va vous redonner la parole tout de suite, mais d'abord on va remercier un Nassif pour son témoignage. On va prendre un autre auditeur en ligne parce que sinon j'ai peur que tout le monde ne puisse pas passer. On va partir pour le Burkina, retrouver Daouda qui réside à Bitou. Bonjour Daouda.
Bonjour Caroline.
On écoute votre témoignage, allez-y.
Merci beaucoup, bonjour à tous les auditeurs de l'RFI. Ma question c'est... Depuis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire la sieste. J'avais bien intégré ça dans mes programmes. Et je le faisais bien régulièrement. Mais entre-temps, j'ai fait le constat, trouvé que non. Souvent, quand je dors, je n'arrive pas à me réveiller autant voulu. Ça, c'est premier. Et quand je me réveille aussi, je me sens fatigué. Je ne peux rien faire encore. Donc, je ne sais pas à quoi cela est dû.
Daouda, vous parlez de sieste de quelle durée ? Vous faites la sieste de quelle heure à quelle heure ?
Bon, probablement, je commence la sieste à 13h45, 13h40 et puis jusqu'à 16h.
Donc, c'est long, hein, ça dépasse largement une heure, c'est bien ça ?
Oui, ça dépasse une heure.
Brice Faro, vous vouliez réagir, allez-y.
Oui. Mais tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Alors l'inertie du sommeil, c'est quelque chose qui est un état physiologique qui est favorable en fait quand on se réveille le matin, parce que c'est un état tampon, si vous voulez, qui permet à l'ensemble des systèmes cardiaques, hypertension, tension musculaire, de remonter doucement à la surface sans que ce soit trop violent. Mais le problème, lorsque vous rencontrez cet état en plein milieu d'après-midi et qu'il faut être derrière efficace, en forme, concentré, etc., ça va poser un problème. Hein. L'inertie est d'autant plus importante qu'on aura eu du sommeil lent profond. Donc moi, je vous conseille de programmer votre réveil et de raccourcir un peu votre sieste si vous n'êtes pas en très 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 forte dette de sommeil, dans ce cas-là qui nécessiterait une forte récupération, et prendre en compte ce moment d'inertie du sommeil. Sinon, vous pouvez programmer votre réveil sur votre téléphone portable. Et puis, je vais vous dire quelque chose de plus. En s'habituant mentalement à dire « je me réveille dans une demi-heure », figurez-vous que l'organisme peut préparer votre réveil. Ça, ça a été démontré par une formidable expérience où on faisait croire à des gens qu'ils allaient dormir jusqu'à 9h du matin, et en fait au prétexte d'un problème technique dans le laboratoire, on les réveillait à 6h, et d'autres, on les avait prévenus qu'on allait les réveiller à 6h du matin. Bah, figurez-vous, ceux qu'on avait prévenus qu'on allait les réveiller à 6h du matin, un peu comme on prend un avion très tôt, leur hormone de stress qui prépare le réveil avait commencé à s'élever avant, à une heure plus tôt qu'habituellement, alors que ceux qui étaient censés se réveiller à 9h, ils étaient complètement comme vous dans l'inertie du sommeil. Donc c'est quelque chose qui se travaille, c'est une réflexion. Dans combien de temps je programme mon réveil, et puis mentalement, pas trop long. Donc les siestes, réduisez un peu votre temps de sieste, 30-45 minutes. Si vous avez dormi, si vous manquez une à deux heures de sommeil, devrait vous suffire.
Daouda, d'ailleurs, est-ce que vous mettiez un réveil ou vous laissiez aller comme ça aussi longtemps que le sommeil vous prend?
Bon, pareil, je ne mets pas de réveil souvent.
Donc maintenant, petit réveil, c'est ce qu'on vous conseille. Un petit réveil, okay, 35-40 minutes à peu près, ou un peu moins?
Non,
35-40 minutes. Voilà ce conseil, et peut-être que vous, si vous le constatez, hein, si vous voyez que vos maux de tête s'envolent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour dire que ça va mieux. Et on va partir, on vous souhaite une très très bonne journée au Burkina. On part tout de suite pour la Centrafrique. Dernier auditeur, c'est Kevin qui est à Bangui. Bonjour Kevin.
Bonjour Madame Caroline, bonjour à tous les invités de RFI.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, mon souci est que, bon, moi, comme je suis étudiant en première année de biologie, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps qui est un peu saturé. Quand je finis les cours immédiatement, je suis dans ma petite kiosque de rechargement. Parce que je vends les crédits de recharge, c'est peut-être le fait comme activité génératrice de revenus.
Alors, attendez, parce que vous parlez très très vite, Kevin, on a un petit peu du mal à comprendre. Vous êtes étudiant et dès que vous avez terminé vos cours, vous avez une activité rémunératrice. Derrière, vous enchaînez avec une journée de travail, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et je ne me repose pas bien la nuit pour me lever tôt le matin. Ce qui fait que parfois, pendant les cours, je ne suis pas bien le professeur. Je me sens dérangé par le sommeil ou tantôt j'ai des maux de tête et je ne suis pas bien les cours. C'est pour cela que je m'inquiète beaucoup.
Est-ce que vous avez justement, vous décrivez tout simplement, je suis pas médecin, mais quelque chose qui ressemble à du surmenage, vous êtes très fatigué. Est-ce que vous avez un moment, un créneau dans votre journée où vous pourriez faire une petite sieste?
Bon, non, jamais du tout. Il n'y a que la nuit que je dors seulement.
Vous avez vraiment aucun moyen, il n'y a pas un moment. Si vous regardez votre journée, vous avez un smartphone, vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone?
Oui, parce que j'ai un smartphone.
Est-ce que vous passez beaucoup de temps dessus?
Oui, oui, je l'utilise plus souvent.
Est-ce que vous ne pouvez pas prendre une petite vingtaine de minutes que vous passez, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, soit sur un autre site, quel qu'il soit, ou Instagram, pour justement vous installer quelque part à l'ombre et faire un petit somme?
Bon, non, jamais du tout.
Vous ne pouvez pas?
Non.
C'est aussi une hygiène de vie, hein, de se donner les moyens de se reposer, docteur François Duforest. On est dans un rythme de vie intense, intensif pour certains, mais il faut rappeler aux gens, il y a un moment donné, il faut lever le pied.
Bah, c'est pour ça que l'un des conseils qu'on peut donner à votre auditeur, c'est aussi de programmer ses vacances. Parce qu'il est parfois nécessaire, et pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'études, qu'on soit en surcharge. La problématique, c'est comme un sportif de compétition, c'est que si on va trop loin, on risque la blessure. Quand on parle de blessure, ça peut être une blessure musculaire quand on est sportif, mais ça peut être aussi des blessures morales, ça peut être des états psychiques qui font que vous allez être obligé de vous arrêter parce que ça va pas bien. Donc déjà, la programmation des vacances en disant des vacances récupératrices, ça permet de recaler un petit peu, d'apprendre des techniques de récupération rapide, même si on n'a pas le temps de passer entre guillemets 20 minutes ou 30 minutes, c'est une condition nécessaire. Les vacances sont des vacances qui doivent être productives.
Vous vouliez également réagir?
Oui, alors cette situation, malheureusement, vous n'y êtes pour rien, hein, c'est emploi du temps chargé. Donc, dans ce cas-là, on va aller regarder le sommeil sur 24 heures. Donc, alors l'idéal, évidemment, c'est une nuit complète dans sa fenêtre idéale de sommeil. Mais bon, on peut pas toujours le faire. Donc, regardez le sommeil sur 24 heures et comme vous disiez Caroline, essayez de prendre des moments pour et s'entraîner à faire même, si vous arrivez à caler une sieste d'une heure, une heure et demie, ce serait formidable parce que les vrais petits dormeurs, si vous étiez un vrai petit dormeur, je dors moins de 6 heures, je fonctionne normalement. Malheureusement, c'est 6, 7, 8% de la population, donc c'est pas grand monde. Donc vous êtes forcément en dette de sommeil. Donc regardez sur 24 heures et essayez de rattraper du sommeil dès que vous pouvez, sans attendre forcément le week-end si vous en avez un.
Voilà Kevin pour ces conseils. On vous souhaite une très bonne journée à Bangui. Et on va poursuivre tout de suite avec un autre regard. On part pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa. 105 FM.
Pour vous retrouver, docteur Papi Mafuta Kissa, dit bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kitambo à Kinshasa. On a évoqué tout à l'heure, hein, rapidement avec nos invités, une certaine mauvaise image que peut avoir encore la sieste, peut-être d'ailleurs plutôt dans l'ancienne génération, également dans d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'à l'inverse, oui, c'est quelque chose de commun et d'admis, docteur Mafuta Kissadi, chez vous à Kinshasa?
Oui, chez nous à Kinshasa, c'est presque la même chose. En tout cas, la sieste est perçue chez nous comme beaucoup de gens perçoivent ça comme un petit temps de repos, bien sûr, mais c'est pour la digestion. Donc c'est un peu ça.
Et c'est perçu comme quoi? Comme un temps normal ou plutôt une perte de temps?
Bon, en tout cas, pour les Congolais, ceux qui sont instruits, c'est un temps normal, il faut siester, et pour améliorer, n'est-ce pas, leur performance, améliorer leur améliorer leur dynamique, n'est-ce pas, libérer la créativité et diminuer le stress. Mais pour les uns, c'est une perte de temps parce que vous savez, les Congolais vivent au quotidien. Alors, les temps là, c'est pour eux, c'est un temps perdu, aller chercher l'argent. Alors, lorsqu'ils sacrifient 5 à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour siester, et ils considèrent ça comme un temps perdu.
Est-ce que beaucoup de personnes, vous êtes médecin généraliste dans cet hôpital de référence Kitambo, est-ce que beaucoup de monde viennent vous voir justement pour parler du sommeil, pour recevoir des conseils, éventuellement quand il y a des problèmes d'insomnie, mais aussi simplement des problèmes de fatigue?
Effectivement, il y en a beaucoup. Et surtout dans notre contrée, la République démocratique du Congo, c'est ce qui fait que les patients consultent pour ces problèmes d'insomnie ou les problèmes de sieste. C'est souvent la nuisance sonore. Alors il y a des musiques, de la musique par-ci, par-là, des églises, des bars, qui font, n'est-ce pas, jaillir beaucoup de musique avec un volume là exagéré. Alors, pour que les gens puissent avoir un bon sommeil ou des siestes, ça, c'est vraiment difficile. Mais l'État arrive quand même à réglementer ça et en interdisant cette nuisance sonore. Alors, utiliser la musique, n'est-ce pas, avec un volume peut-être très élevé à partir de 18h jusqu'à 23h.
Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce que les personnes qui viennent vous voir, docteur Papi Mafuta-Kissadi, utilisent des moyens traditionnels ou des trucs maison qu'on se donne en famille, justement pour améliorer l'endormissement et puis pour éviter justement ces troubles du sommeil?
Bon, il y a des patients qui viennent, n'est-ce pas, consulter pour ça et lorsque vous avez et ces plaintes, et vous saurez comment les prendre en charge. Mais il y a de ceux-là qui ne viennent même pas. Peut-être ils prennent eux-mêmes ce qu'on appelle l'automédication, peut-être des sédatifs, pour essayer un peu d'avoir un bon sommeil. Donc c'est un peu ça.
Et en général, ce sont des choses contre lesquelles vous mettez en garde. Hein. Quand on dort mal, la première solution, c'est très loin d'être le médicament.
Oui, oui, effectivement.
Merci beaucoup pour toutes vos explications. Hein. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kitambo à Kinshasa.
Le sommeil, c'est la paix, le repos du guerrier. Pour se requinquer dans un monde agité, rien tel que de s'allonger. Rêver longuement, ouais, s'étirer, c'est l'heure de se coucher. Le marchand de sable est passé, tu peux sombrer dans les bras de Morphée, c'est l'heure de se coucher.
C'est gratuit, ça fait du bien, c'est la sieste. Docteur François Dufaurez, on l'a dit, on le rappelle, quand on dort mal, quand on est fatigué, la solution, c'est pas les médicaments. C'est pas toujours, hein, ça peut arriver, mais c'est pas toujours.
Ouais, totalement. On développe depuis plusieurs années à l'Hôtel Dieu justement des techniques alternatives non médicamenteuses. Les gens qui viennent nous voir, ils ont déjà pris des médicaments et ça marche pas toujours très très bien. Donc il y a déjà le fait que discuter avec les gens pour voir s'il y a des raisons objectives ou pas de pas bien dormir. Parfois, il est nécessaire d'avoir du médicament lorsque il y a des événements de vie tels un deuil, une séparation, des choses émotionnellement très fortes et qu'il faut passer un cap. Et donc, faut pas jeter les médicaments. Il y a vraiment des choses totalement utiles. Sinon, tout ce qui est hygiène du sommeil, tout ce qui est technique, ce que nous on appelle cognitivo-comportemental, mettre en place des rituels, rassurer les gens, dédramatiser les situations. Les études montrent que ce sont ces techniques-là qui sont, sur l'insomnie chronique de long terme, les meilleurs médicaments, entre guillemets.
Ce qu'on comprend bien aussi à vous lire, hein, Brice Farot, d'ailleurs, à la fin de votre livre, il y a toute une série d'aides-mémoires, de règles de base pour bien dormir, c'est qu'on peut apprendre à faire la sieste.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, là, ce qu'on vient d'entendre par le témoignage de ce médecin généraliste, il parlait de la digestion, en fait. Je pense qu'il voulait cibler une fenêtre horaire, qui est tout simplement ce deuxième plus importante creux de vigilance en début d'après-midi, où la digestion, ce n'est pas la digestion qui vous fait dormir, mais la digestion, de par l'énergie qu'elle va consommer, accentue ce creux de vigilance qu'on a déjà et qui est d'autant plus fort si on est en dette de sommeil.
Je vous interromps parce que j'ai justement un message. Non, mais c'est justement en rapport avec ce que vous dites. Message de Justin de Boutembo en RDC. Est-ce que c'est bien de faire la sieste juste après le repas à l'école? On nous a dit que ce n'était pas bon de passer directement au lit après un repas et qu'il faut faire de l'exercice. C'est concret.
Écoutez,
hein.
Oui, c'est très concret. Mais écoutez, moi, alors là, tout de suite, je peux pas vous dire, je vois pas de contre-indication. Par contre, l'exercice physique en sortie de sieste pour redynamiser derrière, je trouve ça très, très intéressant. Et donc oui, c'est peut-être certains vous diront que cette sieste de début d'après-midi, de manière génétique, ce serait le reliquat de cette dernière sieste de l'enfance de début d'après-midi qui disparaît. Et c'est pour ça qu'elle est là et qu'elle est vraiment complètement naturelle.
Pourquoi on dit sieste digestive?
Alors,
c'est une expression
En fait, c'est une manière de marquer ce moment du début d'après-midi. Il se trouve que ça concorde avec le fait d'avoir mangé. Mais à nouveau, je répète, si nous n'avons pas mangé, nous aurons de toute manière ce creux de vigilance qui est inscrit génétiquement par notre horloge biologique. Et petite chose, aussi au témoignage, j'ai parlé du temps, la perte du temps. Oui, malheureusement, depuis que l'électricité, depuis que l'électricité illumine nos 24 heures, ce que j'ai dans le livre, c'est que le cours du sommeil a chuté, quoi. Donc, il y a une tentation d'aller toujours vers l'activité, valoriser l'activité pour l'activité, mais à tort, parce que je vous rappelle, si on récupère bien, on sera plus efficace et on aura une activité de meilleure qualité, quoi.
Docteur Dufaurès, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non, c'est une toute petite remarque, c'est que le mot sieste vient du latin sixta, et les anciens avaient déjà identifié le fait que cette fameuse moment où on peut se relâcher, c'est la sieste, c'est le sixta, c'est 6 heures après l'heure du lever. Et comme par hasard, évidemment, on arrive entre 13 heures et 14 heures.
Alors justement, sur l'image de la sieste, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour compléter cette réhabilitation? Parce que pour ne pas avoir des regards réprobateurs, pour ne pas avoir des critiques quand on fait la sieste, docteur François Dufaurès, peut-être justement revenir à l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est sportif, donc adepte de la performance et pourtant siesteur.
Je vais rebondir et reboucler peut-être avec ce qu'a dit Brice au début de l'émission sur la notion de récupération. De plus en plus, on essaye maintenant de dire qu'un détail n'est pas un détail dans cette notion de performance professionnelle au sens large. Et on pense toujours à l'action, mais on pense pas que ces actions sont répétitives. Et finalement, dans une carrière professionnelle, par exemple, c'est plus de 42 ans qu'on va travailler au minimum maintenant. Et c'est donc un marathon avec plein de sprints au milieu. Et donc la récupération fait partie de la performance. Et savoir maîtriser sa chronobiologie, savoir maîtriser ses moments de récupération fait partie de la performance au sens large, ce qu'on appelle la performance durable.
Brice Farot, on a parlé du meilleur moment de la journée, on a parlé de la durée, on n'a pas parlé du lieu. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un endroit particulier? Tout à l'heure, il y a eu ces cocons dans le reportage. Mm-hmm. On a l'image du hamac, on a l'image des personnes qui dorment sous un arbre aussi quand on a besoin d'ombre. Est-ce qu'il y a un lieu propice à la sieste?
Je vous réponds tout de suite. Juste pour les sportifs, il y a un article qui vient de sortir qui montre par exemple qu'une sieste de 30 minutes, ils ont fait des exercices très poussés de sprint chez des athlètes. Et en effet, la distance parcourue sur ce type particulier d'exercice était clairement améliorée par ces siestes de 30 minutes. Donc vraiment, il y a un intérêt pour tout le monde. Pour le lieu.
Alors, en 30 secondes.
Oui, en 30 secondes. Le lieu, donc l'endormissement, la bascule veille-sommeil, c'est influencé par des facteurs extérieurs, température, bruit, on en a parlé à l'instant, donc évidemment se protéger du bruit, température de 18-20 degrés, de l'obscurité, parce que même les yeux, les paupières fermées, la rétine continue à percevoir le signal lumineux. Deuxième chose, les facteurs endogènes, le stress, l'anxiété, les douleurs qui peuvent aussi vous embêter, et la position. Donc la position, dernière chose, la position, plus vous êtes allongé, mieux c'est, hein, pour deux raisons, c'est le relâchement musculaire, hein, c'est-à-dire que la nuque va tomber, et puis les systèmes de stress scannent l'environnement pour vous réveiller en cas de danger, et les systèmes de stress sont plus actifs si vous êtes en position plus vers la position debout. Voilà, j'en ai fini.
Vous en avez fini, merci beaucoup docteur François Dufaurès, parce que quand même, Brice Farot, je voulais rappeler le titre de votre ouvrage, Sauvé par la sieste, petit somme et grande victoire sur la dette de sommeil, aux éditions Actes Sud. « L'activité physique et le sport à présent dans Priorité Santé. On en parle bien sûr avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vous allez nous parler d'un grand bienfait du sport, c'est l'effet anti-stress. Quel sport, comment le sport peut intervenir sur ce fameux stress?
Eh oui Caroline, le stress, bon, on le sait, c'est la conséquence d'un ensemble de réactions chimiques qui interviennent dans l'organisme. Alors que l'événement d'ailleurs soit heureux ou malheureux, en fait le corps va libérer un ensemble d'hormones stimulantes, comme l'adrénaline par exemple. Le cerveau va sécréter des produits antidouleurs tels les endorphines. Et tout cela, c'est très bien parce que ça éveille les capacités intellectuelles, ça fait monter la tension artérielle, ça surcharge aussi un peu le sang en sucre et tout ça en fait c'est fait pour pouvoir agir. On peut dire que l'homme de Cro-Magnon, probablement, quand il croisait un ours, il devait fuir ou combattre, et il avait besoin de faire cet effort violent, et le stress allait l'y aider. Alors, courir ou fuir, ça c'est les deux solutions, et lorsque on fait de l'activité physique, justement, toutes ces hormones du stress sont stimulées. Et lorsqu'on est au repos, le taux basal d'hormones du stress diminue chez la personne entraînée, donc le rythme cardiaque est plus lent, et puis le fait d'avoir sécrété des endorphines, ça donne aussi au repos une sensation de plénitude. Et donc tout ça, finalement un rythme cardiaque plus lent, un relâchement, une sensation de plénitude, c'est quelque chose qui lutte finalement contre les effets du stress.
Justement, est-ce qu'on peut citer des sports particulièrement efficaces, des sports anti-stress?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut choisir des activités qui conviennent, ça c'est important, en fonction de son tempérament et en fonction de ses besoins. Par exemple, les sports collectifs ou de technique obligent à communiquer. Et ça, c'est très intéressant. Alors, le foot, le rugby peuvent être conseillés. Et puis, à l'inverse, si on a besoin d'une activité sportive canalisante, apaisante, régulatrice, on s'orientera plutôt vers des efforts d'endurance qui peuvent être proposés, qui permettent d'améliorer aussi le contrôle gestuel. Par exemple, le golf, le yoga ou le VTT, qu'associe les deux, ou ça, c'est parfait. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il faudra modérer son entraînement. Évidemment, faire trop de sport, trop souvent, ça, c'est pas bon pour justement le stress et la relaxation. 3 entraînements par semaine, 30 minutes à 1 heure, d'une intensité modérée, ça, c'est parfait pour pouvoir calmer et diminuer la tension. Et puis enfin, il faut s'organiser souplement, il faut faire en sorte que les activités soient pas trop éloignées de son domicile, qu'il n'y ait pas trop d'horaires rigides. Voilà, donc si on peut faire du jogging, c'est très bien parce qu'on le fait quand bon vous semble. On peut avoir une salle qui est située tout proche de chez soi, ou même faire, pourquoi pas, du sport dans son salon avec sa musique préférée.
Alors, quel conseil, docteur Sen, pour celles et ceux qui stressent en faisant du sport?
Par exemple, si vous avez une compétition, le but, c'est bien de se préparer. Donc, dans l'après-midi, si la compétition est le soir, il suffit de faire une petite sieste, se mettre au repos, mettre en place des routines, des habitudes. S'isoler, par exemple, si on en a besoin pour se concentrer, écouter de la musique, se relaxer, relativiser aussi en se centrant surtout sur les moyens, bien plus que sur les résultats. Améliorer la confiance en soi en faisant de la visualisation, respirer, se rappeler de ses points forts, des attitudes lors des dernières compétitions, et puis ancrer les expériences positives. Il faut par exemple, à chaque fois que l'on réussit un geste significatif, on peut serrer la main, le poing ou dire un « allez » qui encourage. Alors tout ça, c'est quelque chose qui aide bien sûr les sportifs de haut niveau, et puis on se souviendra du basketteur américain Charles Barkley qui disait « la pression, je ne connais pas, la pression, c'est pour les pneus ».
Oui, c'est mieux d'avoir un petit peu de pression dans les jambes quand même quand on court. Merci, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On se retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Tout à l'heure sur